Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical, Tendance Confidence. Avant de présenter l'invité de ce jour, je signale que cette émission a été enregistrée avant le conflit de guerre en Ukraine. Nicolas Zeller, vous travaillez comme médecin-chef dans les forces spéciales en France. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre paru aux éditions Talendier, qui est comme titre « Corps et âme ». Qu'est-ce que vous acceptez de dire de vous-même pour continuer de vous présenter aux auditeurs de Tendance Ouest ?
Je suis médecin. Voilà, je suis médecin et je le fais dans un environnement très particulier qui est celui des armées. Ce métier de médecin militaire, il nous fait rencontrer l'autre, et cet autre, c'est un soldat. Et ce soldat, aujourd'hui, il peut paraître parfois un peu banal, mais en réalité, quand on le rencontre, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour la France.
Et dans ce cadre militaire, quelles peuvent être les missions de ces forces spéciales ?
Alors les forces spéciales, c'est des commandos qui sont formés, entraînés, équipés pour conduire des opérations dont l'intérêt est stratégique pour le pays, qui revêt un caractère essentiel pour la sécurité du pays, on pourrait le traduire comme ça. J'y suis arrivé comme médecin, toujours bien sûr, un peu sur le tard, entre guillemets. J'avais déjà commencé à soutenir d'autres régiments de l'armée de terre avant de faire ce choix de rejoindre ces unités-là qui sont un peu particulières, mais dans lesquelles la densité humaine se conjugue avec la densité des opérations et ça crée une alchimie très particulière.
Alors lorsque nous parlons de l'armée, nous parlons d'elle parfois comme la grande muette. Vos patients, qui sont aussi des militaires, peuvent vous parler en toute liberté ?
Ah oui, il y a une parole libre dans le cabinet du médecin. Les gens se livrent, les gens partagent. Parfois, pas tout de suite, c'est subtil, il faut parfois un peu de temps, mais globalement on arrive à créer ce lien entre un patient, un malade, un blessé et son médecin de façon tout à fait identique à ce qui peut se passer dans le monde civil. C'est ce qu'on vit humainement qui crée cette intimité. Le soldat est pas muet, en tout cas pas dans l'intimité du bureau de son médecin.
Les personnes se livrent, vous en avez fait un ouvrage. Tout livre est un voyage. J'emprunte ces quelques mots à Eric Orsena qui a préfacé votre livre qui a comme titre « Corps et âme ». Mais ce livre-là est un voyage à nul autre pareil car il vous conduit en des régions extrêmes, là où la vie côtoie quotidiennement la mort. Eric Orsena, ça vous inspire un commentaire ?
Là où la vie côtoie quotidiennement la mort. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel pour ceux qui connaissent pas le monde des armées ou pour ceux qui se posent la question de s'engager dans les armées. La réalité du soldat, c'est celle de la guerre. Dans cet événement qu'est le fait guerrier, eh ben, c'est la mort qui est sur le champ de bataille. Ce qui est incroyable, c'est quand un jeune de 20 ans, 30 ans fait ce choix de s'engager et qu'il découvre que effectivement, non seulement il risque sa vie, mais il peut aussi donner la mort. Tout ça dans un espace-temps et un âge auquel, en principe, on est censé donner la vie. Voilà tout ce que ça crée comme matière humaine derrière.
Et cet âge des 20-30 ans, c'est aussi la génération de ces jeunes qui ont débarqué lors de la Seconde Guerre mondiale, lors du débarquement en Normandie. Que vous inspire ce chapitre de l'histoire avec ces tragédies ?
Le débarquement, les plages du débarquement, pour ceux qui y ont été, il y a quelque chose d'assez impressionnant, c'est la majesté du lieu. Quand on regarde ces lieux-là, il y a quelque chose qui vous emporte, il y a quelque chose de magnétique qui sort de ces terres. Quand je ferme les yeux et que je pense au débarquement, je vois ces jeunes soldats courir en sortant de la barge, alors que le danger est partout, mais ils y vont en courant. Et ça, dans le mouvement, dans l'action, je trouve ça très très porteur pour quelqu'un qui aujourd'hui se pose la question de s'engager. Ils ont donné leur vie, voilà, ils ont donné leur vie. Et c'est pas que parce que certains sont morts, nombreux d'ailleurs, mais c'est parce qu'ils ont fait l'acte de s'engager. Et ça, c'est très fort aujourd'hui.
Nicolas Zeller, je rappelle que vous avez le grade de colonel, vous êtes médecin-chef au sein des forces spéciales de l'armée française. Que vous inspire le sous-titre de cette émission, Cœur et vie, alors que le titre de votre livre est Corps et âme ?
Pour se poser cette question du sens de la vie, quel sens a ma vie ? Il faut s'arrêter deux minutes, il faut s'ouvrir au monde, il faut du coup faire fonctionner son cœur, son corps et son âme. Et aujourd'hui, force est de constater que parfois on travaille beaucoup l'esprit, on travaille beaucoup le corps et l'âme, c'est quelque chose qu'on n'arrive plus trop à ni à comprendre, ni à expliquer, c'est complexe, à vivre au quotidien, à identifier cette part de nous-mêmes qui nécessite un entretien.
Et selon vous, qu'est-ce qu'un soldat ?
Un soldat, c'est un homme, c'est un être humain. Dans ces trois dimensions, ça, je crois que c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre au monde d'aujourd'hui, mais il est en mouvement, qui fait fonctionner les trois pistons de son moteur, le corps, l'âme et l'esprit en même temps, et ce qui finalement lui permet de poser cet acte d'engagement qui est majeur.
Que devient le « tu ne tueras point », commandement ancestral universel, fortement ancré dans notre culture, « tu ne tueras point ».
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, la société donne à une part des hommes qui la composent le pouvoir exorbitant de porter la violence à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Mais en tout cas, pour prémunir cette société d'une menace existentielle, si les soldats ne s'engagent pas, l'existence même de la nation est compromise. En faisant ce choix, en octroyant ce pouvoir exorbitant à une part d'elle-même, cette société finalement accepte que ces gens-là soient exonérés de ce commandement ancestral qui est celui-là, tu ne tueras point. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui prient pour le repos de nos âmes.
Ce mot d'engagement est fort de sens, et vous le savez, hein, Nicolas Zeller, faisant partie de ce corps de l'armée, aussi dans le corps médical, puisque vous êtes médecin-chef dans les forces spéciales, comment demeurer fidèle à un engagement ?
Cette question-là, c'est la question de la fidélité dans l'adversité. Ça vaut dans le mariage, ça vaut dans les métiers vocationnels, ça vaut dans le métier militaire, bien entendu. Le point commun de ça, c'est ce mot-là, hein, engagement. Mettre en gage sa vie, c'est-à-dire confier sa vie à quelqu'un d'autre.
S'engager en pleine conscience avec le risque d'y perdre même sa vie, s'engager pour servir la patrie, cela peut apparaître fou.
Oui, c'est fou, mais c'est beau. Une fois qu'on a réfléchi à cette question, une fois qu'on a posé quelques bases de réflexion autour du don de sa vie, de l'orientation de sa vie, probablement que la peur disparaît. Et probablement que l'angoisse qui va avec le choix qu'on fait, qui nécessite une part d'abandon, qui nécessite une part de, non pas tant de déracinement, mais en tout cas acceptation de ne plus totalement être à soi et d'être confié à quelqu'un d'autre. Alors dans l'armée c'est un chef, mais dans la vie de tous les jours c'est peut-être une famille, dans la vie de tous les jours c'est pour certains Dieu, voilà, enfin quelqu'un d'autre. Une fois qu'on a fait ce choix-là, les angoisses disparaissent.
Mais qu'en est-il de la mort lorsque vous voyez sur les champs de bataille la fragilité de l'existence ?
Bien sûr que j'ai pas envie de mourir, ça c'est certain. J'ai pas envie de mourir au combat. En revanche, est-ce que j'ai peur que ça m'arrive ? Non, pas véritablement. Je ferais la différence entre avoir la trouille et avoir la peur. J'ai peut-être la trouille de mourir, mais en réalité, s'il m'arrive quelque chose, j'ai fait ce choix. Voilà, j'ai fait ce choix que ça puisse arriver. Les choix sous contrainte, c'est des choix qui enferment, alors que le choix libre, c'est quelque chose qui libère, qui laisse l'opportunité de développer quelque chose, qui laisse l'opportunité de créer quelque chose, qui permet finalement d'être acteur de sa vie.
Et qu'est-ce qui fait que dans l'adversité, vous ne baissez pas la garde, vous restez la tête haute avec la responsabilité qui vous incombe ?
Parce qu'on n'est pas seul. Je crois que dans l'armée, plus qu'ailleurs, on a des camarades, on a des frères d'armes, parce qu'on vit cette fraternité, on a des chefs, on n'est jamais seul. Voilà pourquoi on tient le coup et pourquoi on peut rester fidèle dans l'adversité.
J'imagine que cette expression de prendre soin d'eux va directement à votre corps et à votre âme en tant que médecin.
Si tout le monde prend conscience de sa propre humanité et donc de celle de son voisin, ce qui prend un sens très particulier dans l'armée, notamment dans les combats, on prend naturellement soin du monde et finalement tout ça s'articule de façon assez logique.
J'ai lu aussi dans votre ouvrage une belle image que vous employez, l'image du caillou. Est-ce que vous voulez bien le conter aux auditeurs de Tendance Ouest ?
Alors cette image du caillou, on peut la prendre dans plein de sens différents. Il y a d'abord les petits cailloux qu'on ramasse sur le bord de la route, qui nous pèsent un peu dans les poches, qui sont notre histoire. Les médecins parfois appellent ça leur petit cimetière. C'est aussi, je trouve, le caillou, le galet plutôt, le symbole d'une vie. C'est, on commence à l'état brut, une espèce de caillou avec des arêtes tranchantes, et puis la vie se charge de nous faire passer dans le torrent de la vie, et finalement ces pierres à la fin deviennent des pierres quasi uniques. Il n'y en a pas une qui se ressemble, mais elles sont toutes polies, elles ont tout un aspect assez joli, on pourrait dire sur la fin de la vie une forme d'allégorie de la sagesse, plus jolie qu'une pierre avec des arêtes bien tranchantes.
Pensez-vous qu'il y ait une solitude face à une décision à prendre ?
Symboliquement, il y a deux personnes qui sont seules à la guerre. c'est le chef militaire qui est seul à porter les responsabilités et qui est entouré d'une équipe, certes, mais à la fin, il est seul dans cette adversité. Et puis le deuxième qui est seul, c'est le médecin, justement parce qu'on lui confie des tas de choses qu'il peut pas lui-même confier à d'autres. Donc il y a cette forme de solitude-là. Ces deux hommes, le chef militaire et le médecin qui est avec lui en opération, comme ça, quand l'alchimie est parfaite, qui du coup peut se porter et se supporter en même temps. Après, on peut confier aussi à son cœur, hein, ce qu'on vit, et puis ensuite on apprend aussi à trier, à ranger correctement tout ce qu'on nous confie, et il y a le temps d'une forme de digestion. Quand vous avez la vie de quelqu'un dans les mains, ça c'est un poids qui peut paraître énorme, des responsabilités incroyables. Ce que vous faites est totalement gratuit, quoi. Enfin, y a rien. Certes, les gens vont venir vous dire merci, ou vos camarades vont vous dire heureusement que vous étiez là, ou etc. Mais à la fin, c'est quand même totalement gratuit. Il n'y a aucun profit à tirer de ça.
Vous écrivez dans votre livre intitulé Corps et âme, paru aux éditions Talendier, vous écrivez la violence évoquée par ces hommes en consultation peut être si intense qu'elle envahit parfois tout le bureau. Dans ma tête, j'ai besoin d'appeler les miens, non pas pour raconter cette nuit dantesque, mais pour leur dire que je les aime.
Oui, il y a quelque chose, quand on est au cœur de la violence, on est tout petit déjà. Et effectivement, il y a toujours cette question-là qui vient juste après, qui est wow, « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je viens de vivre ?» Et ça, effectivement, il y a une façon de se sentir en vie encore plus, qui est de le partager avec ses proches, et qui est de leur dire qu'on les aime, ouais, bien sûr.
Et page 41, on a souvent l'habitude de dire que l'individu n'est rien et que seul compte la force du collectif. Chaque individu apporte sa pierre à l'édifice. Il apporte aussi ses défauts qui sont compensés par les qualités des autres membres de son groupe. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ces lignes que vous avez rédigées?
Oui, quand on s'engage, mais quelle que soit la forme d'engagement, en réalité, on se met au service d'une collectivité, on se met au service de quelqu'un d'autre. Et chacun apporte son petit lot de talents et le voisin apporte d'autres talents. C'est même pas une histoire de fragilité ou de vulnérabilité des uns qui sont compensés par les autres. C'est chacun amène des talents qui se complètent à la façon d'un puzzle. Et effectivement, chaque pièce est essentielle, mais finalement, ce qui est beau, c'est le puzzle en lui-même. Et c'est ça le collectif.
Les popotes sont un thermomètre assez précis pour indiquer la cohésion d'un groupe, facteur clé du succès en opération, d'autant plus au combat. La popote.
Mais regardez l'effet de levée de pression, comme si on avait soulevé la soupape de la cocotte minute le jour où on a réouvert les bars en France après le confinement. Eh ben, c'est exactement pareil. Les popotes, cet endroit où les soldats se retrouvent, c'est un thermomètre. C'est-à-dire, finalement, c'est le lieu social dans lequel les gens se retrouvent, dans lequel les gens partagent, dans lequel les gens échangent. Et cet endroit-là, c'est un endroit assez particulier dans les unités, dans lequel on peut prendre la vitalité d'une unité.
Dans le corps de l'armée, je découvre, écrivez-vous, des caractères singuliers que font émerger les frustrations et les coups de gueule. On y trouve les compétiteurs, les irascibles, les exaltés, les indécis, les peureux et les discrets, mais aussi les humbles. Comment faire corps d'armée avec une telle diversité de tempéraments?
Mais c'est justement parce qu'on est très divers qu'à la fin ça fait corps. Votre bras gauche, c'est pas votre bras droit, votre jambe gauche, c'est pas votre jambe droite, et elles sont différentes, et à la fin ça fait votre corps. C'est un peu la même chose. Heureusement que tous ces caractères s'expriment de façon si différente dans une collectivité comme ça, surtout quand ils sont révélés par des situations chaotiques ou exceptionnelles. On uniformise d'autres choses, mais heureusement que les caractères sont pas uniformes.
Vous connaissez certainement cet adage que l'on attribue à Saint François de Sales, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit.
Ah oui, le bruit ne fait pas de bien, le bruit il étouffe, il fait mal même parfois, il fait mal aux oreilles, il peut aller jusqu'à casser des oreilles, c'est pour parler un peu vulgairement, mais la guerre fait un bruit assourdissant. La guerre fait des bruits qu'on n'a jamais entendus nulle part ailleurs, tous les poilus ont décrit ça dans leurs lettres avec des mots très différents les uns des autres, mais tous ceux qui ont entendu des tirs d'artillerie ou des tirs de mortier ont ce bruit imprimé dans leur cerveau. On parlait des sens tout à l'heure. L'ouïe a une part particulière dans le combat. Le monde militaire, en dehors même de la guerre, du fait guerrier, fait du bruit. Les chenilles d'un char, ça fait du bruit. Les voitures font du bruit. Tous les véhicules font du bruit. Les groupes électrogènes font du bruit. Il y a une espèce de brouhaha permanent. Et pour retisser ce que disait Saint-François de Sales, il étouffe une part de notre vie intérieure. sur lequel il faut pas rester centré en permanence. Faut pas vivre en méditation quand on est dans l'armée. C'est pas notre métier. Mais en revanche, il faut avoir ces temps de pause qui permettent en silence, ou en tout cas dans le calme, de se ressourcer et de digérer ce qu'on peut vivre.